François, je vous propose de commencer ce conseil municipal. Donc nous sommes le 4 avril 2016, il est l'heure prévue. Je vous propose donc de commencer en vous donnant d'abord la liste des pouvoirs qui nous ont été communiqués. Nathalie Reynard qui donne le pouvoir à Colette Leclerc, Nathalie Reynard nous rejoindra en cours de route. Chantal Blanc qui donne le pouvoir à Béatrice Roux. Patrick Campon qui donne le pouvoir à Madame Trébillier. Denis Faure qui me donne le pouvoir, pardon. Alain Consant qui donne le pouvoir à Gilles Bernard. Et Blandine Rasselet qui donne le pouvoir à Pierre Collin. Pour autant qu'il nous rejoindra certainement un petit peu plus tard. Je vous propose de nommer secrétaire de séance Monsieur Pierre Collin.
S'il vous plaît. J'ai le pouvoir de M. Patrick Rossetti.
Ah, pardon.
Non, mais ça s'est fait. Ça s'est fait vraiment.
Très bien.
Au dernier moment.
Patrick Rossetti, donc.
Ah, oui, certainement.
Bien. Premier point. Approbation du compte rendu de la séance du 24 mars 2016. Y a-t-il des observations particulières? Donc je le mets aux voix. Opposition, abstention, unanimité. Je vous remercie. Nous commençons par le premier point, l'approbation du plan communal de sauvegarde. Michel Delinocenti, à vous, après une longue absence. Vous avez tout loisir d'exercer votre part vocale.
Bon,
sujet important.
Dans un premier temps, le plan communal de sauvegarde. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce plan communal de sauvegarde. Ça n'a pas été simple, puisque vu la configuration de la commune avec son étendue, sa superficie et tous les risques, qu'ils soient d'incendie ou d'inondation, il a fallu faire un gros travail de recherche et tout. Donc on a mis un certain temps pour arriver à l'élaborer. Là, ça y est, maintenant c'est fini. Donc nous avons eu une présentation il y a quelques mois pour définir ce que c'était que le plan communal de sauvegarde. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est un document assez important. Donc aujourd'hui, ce que l'on vous demande, c'est de voter au conseil municipal ce plan communal de sauvegarde pour que dans la foulée, nous puissions le transmettre à la préfecture et qu'il puisse être enregistré à la préfecture et que nous soyons en conformité avec un autre. Donc, je redis pas tout ça. Hein. Donc, je vous demande de voter ce plan communal de sauvegarde.
Très bien, écoutez, merci. Effectivement, ça fait l'objet de longs débats de plusieurs réunions. Est-ce qu'il y a des observations particulières concernant ce plan ? Et qui seraient susceptibles d'intervenir pour tout élément climatique subi, imprévu, bien sûr. En souhaitant effectivement que l'on n'ait pas à s'en servir. Donc, si pas de remarques particulières, je vous propose de le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Deuxième point de l'ordre du jour, modification du plan local d'urbanisme. Jean-Marc Petit, s'il vous plaît.
Oui, monsieur le maire.
Monsieur l'adjoint.
Donc, il s'agit de modifier, et uniquement modifier, l'organisation à l'intérieur des zones déjà votées et qui n'ont pas à bouger et qui n'ont pas vocation à bouger dans la disposition qui nous occupe. Donc, on vous rappelle que le PLU a été approuvé en décembre 2011, qu'ensuite il a été différentes lois ont été promulguées, la loi Allure, la loi 3AF, la loi dite Macron, et que la révision générale du PLU a été votée en date du Conseil du 10 novembre 2015. Donc les orientations générales sont rappelées, hein, affirmer le rôle ville-centre et cœur économique du Ventoux, maîtriser le développement urbain et résidentiel, et l'orientation numéro 3, protéger les espaces naturels, agricoles, et valoriser la trame verte et bleue. Donc, compte tenu de ces rappels et donc des dispositions de la loi Allure à l'article 80 de la loi Macron relative à la constructibilité en zone agricole et forestière, proposant des extensions et annexes des bâtiments d'habitation sans toutefois porter atteinte à l'économie générale. Donc voilà, le PLU intervient dans le cadre de l'article du Code de l'urbanisme. Donc je vous passe tous les codes d'urbanisme différents, les articles L153 avec différents tirés, sur l'affichage, les articles 153.20 et 153.21. Donc on rappelle que le PLU avait été voté au 21 décembre 2011 et qu'en date du 10 novembre 2015, la révision générale était engagée avec... un rappel du PADD tel qu'il avait été exposé en 2011, qu'on n'a pas repris, qu'on a simplement toiletté. Donc il est demandé au Conseil municipal d'adopter la présente délibération et de confirmer la nécessité de modifier le PLU pour tenir compte des lois pour accès au logement et à l'urbanisme rénové, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, et pour la croissance et l'activité, l'égalité des chances économiques. De dire que cette modification, parallèlement à cette... à ce vote est engagé par arrêté du maire, par l'article 153.37 du Code de l'urbanisme, puisqu'il est dit que la procédure de modification est engagée à l'initiative du maire qui établit le projet de modification. De dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal départemental d'annonce légale, et de donner tout pouvoir à M. le maire ou tout adjoint faisant fonction de prendre les mesures subséquentes pour engager cette révision. Du PLU, numéro 1.
Très bien, donc on est bien d'accord. Il ne s'agit nullement de quelques décisions engageant, comment dire, ni des changements de zone, ni des changements de règlement ou autre. On est bien dans la mise en place de la procédure qui nous permet de le faire. Très bien, donc que les choses soient claires. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a des questions ? Je vous en prie.
Oui. Au sujet de la loi Macron, je pense que c'est ce que je vous avais dit une fois au Conseil,
hein, c'est ça, la dernière fois, oui,
qu'il y a eu la dernière fois qu'on en avait parlé. Ça consiste en quoi, réellement?
Donc, dire que... qu'on est...
Ben,
que...
Moi, j'ai lu le texte lorsqu'il était sorti, mais après, retranscrit. Parce qu'il y a une
dire qu'on va proposer dans les zones... dites agricoles et naturelles, à partir du moment où nous aurons 25 mètres carrés de surface au sol, fois 2 c'est un étage, c'est-à-dire 50 mètres carrés de surface utile, une possibilité d'extension à condition qu'elle soit liée au bâtiment existant de 50 mètres carrés, avec possibilité de faire un garage, encadré aussi, une piscine, un pool-house et, qu'est-ce qu'on a dit, un local technique. Et de, voilà, pour ce qui est, quel que soit après la superficie, c'est-à-dire on ne fait pas un pourcentage, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que la personne a 300 mètres carrés a droit de faire 20%, parce que si on avait pris un pourcentage, celui qui a 25 mètres carrés, il faisait, si on me dit 20%, il avait la chance de pouvoir faire 5 mètres carrés d'extension, et celui qui en avait 250, il en faisait 50.
Oui, non, bien sûr. Mais c'est
Et après, pour ce qui concerne les agriculteurs, ils auront la possibilité d'établir un nouveau siège social uniquement dans les zones agricoles reconnues agricoles, c'est-à-dire pas les zones A protégées qui ont été votées, ni les zones N, voilà. Sachant que tout ce qui est en zone feu et incendie, la prescription ne sera pas étendue, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'extension nouvelle, même la possibilité d'augmentation limitée ne sera pas autorisé dans tout ce qui est zone N, AF, enfin tout ce qui est pas zone U.
Parce que ces extensions, donc c'est pour tous les bâtiments, je ne parle pas du bâtiment d'exploitation, hein. C'est pour tous les bâtiments qui sont aujourd'hui en zone agricole,
oui.
Quel que soit la...
Oui. Et cadastré, c'est-à-dire, oui. Non, parce qu'il y a des gens qui s'étaient empressés de faire décadastrer des cabanons pour ne pas payer des impôts.
Oui, non. C'est un peu un retour en arrière de ce qu'on avait, de ce qui s'est fait depuis plusieurs années.
Plusieurs années, depuis plusieurs décennies.
En fait, c'est un assouplissement des règles qui étaient de plus en plus contraignantes pour les constructions en zone agricole.
Absolument.
Tout
absolument.
À fait.
Oui, oui, c'est ça. C'est permettre de faire un agrandissement mesuré et d'avoir le confort, enfin, le confort d'aujourd'hui, entre guillemets, tant est qu'on peut penser qu'une piscine, un poulaouse et une cuisine d'été soient un confort. Non, mais ça veut dire qu'on n'avait pas le droit. Hein. Si tu n'étais pas agriculteur, tu achetais une ferme sans piscine, tu n'avais pas le droit de le faire. À ce jour, avec la loi, enfin avec le PLU qui était en vigueur jusqu'à ces différentes dispositions.
Donc ça s'applique, cette loi Macron, ça s'applique obligatoirement au PLU en vigueur aujourd'hui, quelles que soient les règles qui avaient été données à l'époque.
Oui.
Parce que tout le monde n'a pas les mêmes règles, oui. Chaque commune a ses règles. Oui. On est toujours dans le cadre légal et tout, mais je veux dire, ça va un peu au-dessus de ce que les communes avaient décidé avec...
Les communes avaient décidé, disons que les communes ont été tenues à un moment donné de respecter une loi, donc une règle qui... C'est pas une question de politique, ni de côté, ni de couleur, on est bien d'accord. Donc c'est dans l'aménagement du territoire, il avait été décidé que tout devait être figé dans les milieux agricoles et a fortiori dans les milieux naturels. Donc il y a eu face à cette rigueur qui était imposée aux communes, il y a eu de nombreuses demandes d'élus locaux, donc directement en prise avec le terrain, qui, disons, réclamaient par rapport au fait que c'était quelque chose qui était à la fois inégalitaire et qui ne correspondait pas non plus à la valorisation des bâtis existants. Et donc, en retour, il y a eu une certaine latitude qui a été donnée, mais néanmoins une latitude qui va être extrêmement contingentée. Par contre, par rapport à ce que nous réclamions à une époque, hein, puisque ça fait longtemps que ces réglementations-là font débat, il n'est toujours pas possible de créer dans ces volumes, ni dans les volumes que l'on pourra ajouter, un nouveau logement. C'est-à-dire que dans les bâtiments où il y a un foyer qui est déclaré, qui est pourvu d'un compteur électrique, d'un compteur d'eau et autres, donc c'est un agrandissement de l'existant pour la partie dont parlait Jean-Marc, les 50 mètres carrés, donc qui pourront être accolés. Et là, j'insiste aussi sur le fait qu'il ne s'agira pas de ce côté-là d'aller construire 50 mètres carrés à l'autre bout du jardin ou à l'autre bout de la propriété ou de l'îlot parcellaire, mais on reste quand même dans la définition d'un habitat existant pour lequel on a une possibilité d'extension. Ensuite, pour tout ce qui est effectivement piscine, hein, comme tu l'as souligné fort justement, pour ce qui est poulaouse, donc locaux techniques pour ces équipements, là aussi, ça émane d'une mesure, de justice en quelque sorte, puisque ce qui était permis à des agriculteurs pour créer par exemple une piscine ne l'était pas d'autres personnes qui avaient acheté pour des raisons diverses et multiples dans une zone agricole où, donc ce qui était en soi assez surprenant. Et donc de la même manière, donc la possibilité s'étend aussi à tout ce qui est d'une possibilité de construire un local technique garage, hein, quand je parle de garage de ce côté-là, mais dans une enveloppe qui ne devrait pas permettre, de la même manière, de faire des transformations à titre d'habitat. Mais on est toujours dans dans cette limitation tout de même de suroccuper l'espace agricole, bon, même si suivant les cas, ça c'est une loi générale, hein, la loi Macron, c'est au niveau du territoire. Peut-être que sur des secteurs géographiques, ça se conçoit, c'est quelque chose qui semble nécessaire, important, qui est demandé. Bon, ensuite, nos habitats provençaux, je n'ose dire bédouinés, n'obéissent pas nécessairement à cette logique qui est maintenant impulsée par cette loi.
Et ces demandes, ces extensions, elles sont soumises à autorisation ou à permis de construire ?
Oui. Permis. Voilà. On demandera, nous, ce qu'il y a un permis.
Oui, alors par contre, là, effectivement, ben, permis, ce qui signifie à minima contribution aux ressources locales par le biais de taxes diverses.
Ah non, c'est vrai. Ça, jusque-là, il n'y a pas de
problème. Oui, non, mais là, on est sur le cadre permis.
Parce qu'au départ, cette demande, je suis au courant, là, cette demande émanait de la profession agricole.
Ouais.
Donc, en fait, c'est. Bon, les agriculteurs vont en profiter, entre guillemets, mais la ruralité dans son ensemble va en profiter.
Voilà, va bénéficier.
Pour pas citer d'autres mots.
Ouais.
Oui, je ne sais pas si c'est suite aux demandes des agriculteurs qu'il y a eu cette fameuse loi Macron, mais je ne suis pas persuadé. Mais bon, en tous les cas, pour les agriculteurs, bon, je trouve que c'est une bonne chose, après, que ce soit étendu à l'ensemble de. On va repartir sur des agrandissements.
Et ceci dit, et par rapport à ceux que nous connaissons, ça signifie aussi que quand il y aura un agrandissement, ça signifiera un schéma d'assainissement en conformité. Donc il faut quand même être conscient qu'on n'a pas gagné le jackpot. Et puisque vous connaissez la procédure, ne serait-ce que le fait de clore une véranda, ça implique, vous le savez, nécessité de consulter par exemple le syndicat d'assainissement ou autre. Donc, si vous voulez, moi, de la même manière que vous, quand j'ai vu arriver cette disposition, je me suis dit, on va avoir une pléthore de demandes de dossiers et de construction, mais il faut voir que derrière, ça nécessite une ingénierie assez conséquente. Et finalement, mais excusez-moi de le dire, mais des moyens pour pouvoir augmenter son patrimoine de 50 mètres carrés, parce qu'on a toute une série de frais et nuits au-delà du fait de la construction qui vont se répercuter. Quoi. Mais après, de notre côté, c'est vrai que c'est le moyen aussi de permettre à tous et à chacun d'avoir une possibilité d'améliorer son habitat.
Parce que l'assainissement, l'agrandissement d'une maison n'est pas forcément lié à un surnombre d'habitants dans la maison.
Pas obligatoirement, mais à des moments donnés, c'est difficile à tenir.
Il y a des gens qui vont agrandir parce qu'il y a. Il y aura d'autres personnes qui vont venir habiter dans la maison, mais ça ne sera pas la majorité des cas.
Mais à partir du moment où on crée une chambre, là aussi, en fonction de l'espace créé, il va y avoir automatiquement. Suspicion et conséquence. Ouais.
Pièce que tu fais petit.
Ça, je ne sais pas.
Non, je veux dire, c'est pas ce qui est le plus grand. Mais après, ça sera à vous.
À notre âge, c'est fini. Hein.
Et pour ce qui est des cabanons, alors qui étaient des cabanons qui n'avaient pas été.
On en reste au même.
À partir du moment où tu n'as pas un cabanon de 25 mètres carrés, tu ne peux rien faire.
Non, parce que les cabanons. Je me rappelle bien les cabanons, on ne pouvait plus rien faire. Ouais. Mmh. Mmh.
Ouais.
Mmh. Pas aujourd'hui.
Oui.
Mmh. Et demain.
Et ben, à partir du moment où tu auras 25 mètres carrés au sol avec un étage, c'est-à-dire 50 mètres carrés, tu pourras l'agrandir, ou 50 mètres carrés d'emprise au sol sans étage, ouais. Tous les autres, et à condition qu'ils soient référencés habitables sur
oui,
le.
Voilà, qu'ils soient
référencés. Puisque je te disais tout à l'heure que des gens avaient fait déclasser, c'est-à-dire qu'ils ont des cabanons qui sont aujourd'hui en terrain nu, qui ne sont pas rattachés en soi à un habitat, ce qui évitait de payer des impôts. À partir de ce moment-là, tous ces cabanons-là ne seront pas impactés, resteront inconstructibles et on ne pourra pas les agrandir.
Donc c'est que les cabanons qui sont habitables aujourd'hui.
Sauf s'il en reste.
Ou les cabanons qui n'ont pas été réparés.
Voilà, c'est-à-dire s'il en reste encore. Moi, je ne connais pas tous les cabanons de Bédouin.
Il n'y a pas de 50 mètres carrés,
mais il n'y a quasiment pas. Il ne doit plus en avoir. Il faut un minimum 5 sur 5 au sol avec un étage.
Et habitable.
À partir du moment où il est resté. Non, parce qu'à partir du moment où il est resté. Je veux dire, hors d'eau, voilà, tenter que tu. Puisqu'à un moment donné, on était gelé. Aujourd'hui, on peut considérer que tu es dans la superficie minimale pour l'activer et éventuellement doubler sa superficie, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Contiguë, de façon contiguë. Et je ne pense pas qu'il y en ait. Pour avoir regardé le cadastre, il ne doit pas en rester beaucoup qui n'ont pas été.
transformé.
Oui, tous ceux qui ont bu le sont.
En fait, les règles d'urbanisme, ce que lorsqu'il y a une modification du PLU et compagnie, lorsque tout ce que l'État impose aux communes, plus ou moins, c'est ce qui se passe. Les scots et compagnie, tout ce qui se superpose et tout. Il suffit d'une loi qui chapeaute tout ça pour tout
remettre en question.
Et c'est ce qui s'est passé là.
C'est le cas là, effectivement. La constructibilité en zone non urbaine, on va dire, qui était quelque chose de figé, d'incontournable, se trouve maintenant modifiée. Jusqu'à la prochaine.
Il parle aussi des trames vertes et des trames bleues.
Oui.
Parce que ça, je n'avais pas l'autre fois, tu m'avais dit ce soir là.
Là, pour l'instant, la trame, je veux dire, tout ce qui est, on travaille là sur de l'ex. Donc, dans les zones urbaines, on travaille sur l'existant. C'est-à-dire on va revoir les pourcentages, puisqu'il n'y a plus de cause. Hein. Donc, vous savez que grâce ou à cause, comme on veut, selon de quel côté qu'on se passe, grâce ou à cause de la loi Allure, il n'y a plus de cause. Donc, aujourd'hui, chacun peut à peu près faire ce qu'il veut. À partir du moment où ils respectent les règles d'urbanisme, de retrait par rapport à la route, de riverains et tout ça. Donc on est un peu dans le. On est dans cette réglementation-là. Après, viendra s'imposer.
Voilà.
Bon, tout comme.
Je vais venir.
Voilà, des choses, une trame verte et bleue qui est travaillée. Mais pour l'instant, on n'a pas. On a un schéma directeur, ce qu'on disait l'autre jour, qui a été travaillé par la COV, hein, sur tout le secteur. Donc ils ont eu un nombre d'entrées, je pense que vous êtes au courant, surtout dans tout ce qui est syndicat agricole, puisque vous avez été associé avant les mairies au travail. Donc après, nous, sur la COV, il y a une entrée de 53, c'est le chiffre qui a été retenu, après discussion avec tous les services de l'État et tout ça, puisqu'il y en avait bien plus, 53 espèces, soit animales, soit végétales, voilà. Après, libre à nous, effectivement, d'en retenir quelques-unes ou pas, mais en tout état de cause, on ne pourra pas faire un PLU sans trame verte et bleue sur Bédouin, sous peine d'être en nullité totale.
Parce qu'à ces réunions, j'ai assisté à ces réunions, j'avais demandé à ce que, suite aux réunions avec les OPA, à ce que, par exemple, là c'est le SCOT qui gère le truc, qui a une réunion entre la Chambre d'agriculture qui chapeaute ça, avec les délégués d'urbanisme de chaque commune pour bien que tout le monde identifie les enjeux sur le territoire, pour pas. Donc, d'après ce que je sais, la Chambre d'agriculture a rendu un rapport. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Ce rapport, il est sur la table du SCOT de l'Arc là-dessous et du SMAEV, parce que le SMAEV va assister aux réunions. Je pense que c'est dans le cadre du projet de parc.
Oui, mais il a été chargé d'une mission d'élaboration de trame verte et trame bleue. Voilà.
Donc ces recommandations faites par la profession sont au SCOT actuellement pour rendre un avis avec Ismaël. Et après je pense que vous pouvez. Moi je pousse pour que tout le monde connaisse bien. Parce qu'il y a des communes où le maire et les adjoints urbanistes sont bien au courant des problèmes en école. Ce que ça peut engendrer dans le futur. Et c'est pas toutes les communes qui sont au courant. Après, chacun en fera ce qu'il voudra, mais que tout le monde soit bien au courant, parce que c'est les zones naturelles qui vont être factuarisées, on va dire. Elles vont l'être pour un moment, et ça sera très compliqué pour la suite. Donc il faudra bien faire attention. Il y a toujours les recommandations, on revient toujours au même sujet, les recommandations de l'État, c'est la préfecture qui est chargée de mettre en place, et après, bon. C'est comme les PPR et compagnie. Oui. Si on écoute les recommandations qu'on nous impose, parce que c'est des recommandations qu'on nous impose plus ou moins, il faudra être très vigilant.
Le PPRI, c'est différent, c'est une décision préfectorale.
Non, mais d'accord.
Après,
non, mais là, je veux dire, parce que faire un trait sur une carte, c'est bien beau, puis après, il y a la réalité du terrain, qui n'est pas forcément la même.
Ce qu'on a demandé, c'est que ce soit cartographié à la parcelle près.
C'est-à-dire qu'on n'est pas une espèce de pomme de terre comme non, ça.
Cartographier la parcelle au prix, il faut connaître le. Oui. Je veux dire, il faut connaître le territoire pour pouvoir.
Comme ça a été fait, enfin, je pense, moi je sais pas comment a été fait le dernier PLU, mais le dernier PLU, il passe bien. Parcelle par parcelle, on dit on descend là, on adjoint celle-là dans la zone feu, celle-là on la met pas.
Enfin, je veux dire, on parlait pas de trame verte, de trame bleue.
Non, mais ça, on a fait le même travail. Ça a été, le même travail on a été
moins
fait. Après, on
moins contraignant avec moins de conséquences pour le futur. Il faut en tenir compte, c'est tout.
Après, oui, bien sûr, mais ça aurait été bien qu'on arrive, enfin qu'on soit dans le même, au départ. Je pense que ça aurait été intéressant que...
Ils n'ont pas voulu, je l'ai demandé, j'ai témoigné.
À quelle période ça s'est fait ça ?
Non, il y a eu deux réunions, il y en a eu une pour le coin, hein. Il y a eu des réunions dans tout le département, parce que tous les PLU vont être plus ou moins en révision par rapport au colonel.
Mais tout est en révision. Y compris les choses qui s'imposent dans les communes qui ne sont pas tristes.
Ceux qui sont chargés de l'urbanisme, la Chambre d'agriculture ont étudié les documents, ils ont vu qu'il risquait d'y avoir de gros impacts, donc ils ont fait des réunions sur le territoire. Pour ici, il y en a eu une à Flassan et une à Serres. Et la première réunion, j'ai demandé à ce que les élus chargés de l'urbanisme dans les communes et les administratifs aussi qui étudient les permis, qui soient associés à la réflexion. Donc ils m'ont dit on va d'abord se mettre d'accord entre nous et après on fera des réunions.
Une
réponse qu'on m'a donnée après.
Après, moi je pense qu'on aura effectivement un zonage. Moi je pense qu'il faut qu'il passe le long d'une parcelle. Enfin, à moins que c'est quelque chose d'impérieux, que les gens aient des parcelles de 40 hectares, ce qui n'est pas le cas en bas. À part sur le Ventoux, mais le Ventoux est hors tout ça, parce qu'il est déjà... Donc du coup, je pense qu'il faut que ça passe, que ça contourne, que ça prenne les parcelles.
Parce que tu as dû lire le document, là, ce qui est trame verte et trame bleue, c'est une fois que ça sera mis en place, ça sera mis en place.
C'est comme ça que je te l'ai déjà dit, je crois, ou je peux le redire là, que la NESC ne fait pas partie de la trame bleue. Puisque la NESC, à un moment, étant souterraine, elle n'apparaît plus, donc elle n'a pas besoin d'être en trame bleue. S'il y avait bien quelque chose, à mon sens, mais bon, moi je suis qu'un petit spécialiste local, je trouvais que mettre la NESC en trame bleue de la source à Pernes-les-Fontaines me semblait être,
réaliste.
Voilà, mais bon, après... Tant mieux pour ceux qui sont là-bas, les cartes.
Non, mais peut-être que s'il y a des visites sur le terrain, après ça, ce qui sera décidé au final ne sera pas forcément ce qui est prévu au départ.
Oui, c'était le cas avec le PPRI.
Oui, ça a été le cas avec le PPRI.
La cartographie du PPRI, elle avait été mal faite la première fois, parce qu'il ne s'était pas déplacé.
Oui, ceci dit, lors du deuxième déplacement, on se trouve quand même, et chacun le sait, avec le carrefour Market, ou d'une parcelle à l'autre, on se trouve
la
avec
poste.
Une... La poste, voilà, avec des lames d'eau de 2,50 m qui, comme je dirais, le sont bien éduqués, s'arrêtent pile au poil à la limite de la parcelle et reprennent plus loin. Ça, chacun le sait. C'est
non, mais là, il y aura
là, on a aussi la visite sur le terrain.
Aussi
il va y avoir des hérésies, là aussi.
Non, mais c'est sûr. Mais à nous d'être vigilants pour garder le moins de possible.
Moi, je me fais moins de soucis pour la trame bleue. Ça, je pense que là-dessus, on va pouvoir... À partir du moment où on a un cours d'eau, je pense qu'on va pouvoir le suivre.
Après, il y a la définition du cours d'eau.
Oui. Enfin, le nôtre, il n'est pas intermittent. Enfin, je ne crois pas. Ou alors, il faut vite nous prévenir. Mais voilà. Mais après...
La définition du cours d'eau...
Oui, non, mais bien sûr, après tu peux, effectivement, on peut toujours...
Ah, mais c'est pas moi qui fais. Hein.
Non, mais je veux dire, on pourra toujours dire, effectivement, là, il y a tant de mètres cubes secondes à l'année, l'été, non, il n'y en a plus, mais donc
voilà, c'est ça.
C'est plus bleu, l'été, c'est jaune parce que c'est tout sec, mais je veux dire, bien sûr, mais c'est sûr que c'est un enjeu important, surtout sur des communes qui sont aussi grandes que la nôtre. Hein.
Je veux dire, nous, on a 2800 hectares de terres agricoles, donc c'est
sûr.
Non, mais pour ma part, je pense que c'est important.
Je suis tout à fait d'accord.
Voilà, on va essayer de faire le moins d'erreurs possible.
On en fera sûrement une.
On attendra qu'on daigne nous prévenir.
Le cheminement, vous le connaissez. Mais normalement, vous avez demandé à être convié à cette fameuse réunion. Moi, je l'ai demandé, apparemment, ça va se faire. Ce qu'on m'a répondu, c'est qu'il y avait un problème de moyens, c'est que la Chambre des cultures n'intervient pas gratuitement. Donc, mais à vous arranger entre vous.
C'est bien.
On me l'a encore dit cet après-midi.
C'est bien parce qu'on verra dans le point suivant que des choses qui étaient payantes vont devenir gratuites. Alors bon, toutes choses étant égales.
Ça, encore vu.
Merci
d'avoir remercié ça. Ça pourrait être
un compte par.
Je pense effectivement que le. D'après ce que j'ai entendu dire par les responsables, puisqu'on était en réunion de commission il y a 15 jours, je crois, effectivement, il y aura une réunion avant l'été sur la présentation en l'état actuel de la trame dite verte et bleue, pour effectivement que les PLU et tout, déjà le SCOT qui va être revoté, puisque tout se revote hein, par l'un après l'autre, soit conforme. Enfin, le préfet nous a dit qu'entre 5 et 10 ans, on se plaignait, il a dit que de toute façon, tous les 5 ans, on aurait à revoir les règles d'urbanisme qui seraient évolutives. Donc voilà, on n'a pas fini.
Si Macron fait des petits, il va y en avoir d'autres.
Ah ben, oui.
En plus, et ça passe dans l'histoire. Bien, je vous propose donc de mettre cette délibération au suffrage. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La convention de concours avec la SAFER, monsieur Petit,
alors,
s'il vous plaît.
Nous avions voté le 30 octobre 2014 une convention avec la SAFER qui s'accompagnait d'une rétribution, puisque nous étions plus de 3000 habitants. Alors des fois ça nous sert, des fois ça nous dessert, mais là ça nous desservait. Et là il a été mis une nouvelle convention de concours technique en remplaçant la présente version, qui a pour objet de définir les modalités d'intervention de la SAFER et d'un prestataire indépendant de l'accompagnement de la collectivité. Les ingénieries portées par ce groupement permettraient à la commune, à partir de travaux d'expertise approfondie, d'accroître son patrimoine foncier afin de mettre à disposition des biens ou les rétrocéder au profit d'exploitants agricoles et forestiers. La SAFER sera plus précisément chargée d'établir la cartographie et de produire les tableurs et pourra accompagner la collectivité lors de l'éventuelle rétrocession des parcelles. Et donc, ils ont mis en place un prestataire qui s'appelle M. Mathieu Gordier, qui assistera la commune dans l'identification de la nature des biens, la mise en œuvre de la procédure, qui elle aussi est en train de changer, rédaction des pièces administratives et notamment les actes authentiques en la forme administrative. Et l'intervention de la SAFER est à ce jour gratuite. Et les prestations de M. Gordien répondront à un barème établi et en fonction du type et de la valeur de la rétrocession. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, l'article L141.5 du Code rural et de la pêche maritime, l'article 1123 et suivant du Code général de la propriété des personnes publiques, le projet de convention, le projet de la commune, le budget de la commune, mais là, il n'est pas impacté, d'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à engager les procédures sur les biens vacants et sans maître, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention ainsi que tout document afférent, et de dire que la présente convention tripartite annule et remplace la convention avec la SAFER autorisée par la délibération 2014-075 du 30 octobre 2014.
Eh bien, merci. Autrement dit, pour résumer, on a eu le temps d'avoir raison pour tout.
Ouais, en même temps,
trop dynamique.
En même temps, c'était bien, et comme ils ont été gentils, on n'a jamais payé nous avons économisé déjà la première redevance. Donc, du coup, voilà.
Bien. Allez. Des questions là-dessus? Non. Bon, je le soumets à votre approbation. Donc, des abstentions, des oppositions. Je vous remercie. Les biens vacants et sans maître.
Alors,
on continue, Monsieur Petit.
Monsieur Petit. Donc, nous avions déjà commencé, je vous rappelle, l'an dernier, il y a à peu près un an, nous avions déjà parlé notamment des biens vacants et sans maître et de l'île Logier, donc la ruine qui est derrière dans le village. Donc, nous avons fait toutes les démarches, la publicité, écrit aux ayants droit, 6 mois sont écoulés. L'arrêté de péril avait été pris, donc voilà. Donc nous sommes maintenant au moment où nous allons incorporer ces biens dits sans maître. Donc Monsieur le maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens vacants et sans maître. Donc il expose que Madame Marie-Louise Brun, veuve de Monsieur Charles Moreau, née en 1859 à Marseille, est décédée à Bédouin le 1er septembre 1943, et Madame Moreau était propriétaire du bien immobilier suivant sur la commune de Bédouin. Donc la référence est F200 au village contenant 170 mètres carrés, donc qui est un sol encombré de ruines. Considérant la date du décès de Madame Moreau, donc qui est décédée en 1943, considérant que le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière à Avignon n'a révélé aucune inscription pour la parcelle F200, après avoir rappelé que cette parcelle a été frappée d'un arrêté de péril imminent en raison de son état d'abandon et de vétusté manifeste avec une menace d'effondrement ayant nécessité des mesures, Ce bien immobilier reviendrait de plein droit à la commune de Bédouin à titre gratuit. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, article L2241, les Codes général de la propriété des personnes publiques, les articles 1123-1-1 et 1123-2 du Code civil et les articles 713 et 1317, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions de l'article 713 du Code civil et de procéder à l'intégration de la parcelle F numéro 200 dans le domaine privé de la commune et d'autoriser monsieur le maire ou tout autre adjoint faisant fonction à prendre toute mesure afférente à cette délibération.
Donc on est bien dans ce qu'on appelle les ruinologies, hein, je le mets entre guillemets. Donc, c'est toute la partie qui se trouve au-dessous de l'église et où les premiers frais d'ailleurs avaient été faits par des municipalités, si ça se trouve avant 1989. Et donc, vous voyez, c'est une opération de longue haleine. Il y avait eu des mises en péril, des frais engagés pour clôturer, et ensuite, eh bien, les choses se sont décantées et dépréciées, on va le dire ainsi. Donc, voilà. Et donc, on a par la suite une autre délibération sur une autre parcelle qui fait partie de ce lot, là, de cette zone, qui est la parcelle justement Louvier. Je mets à votre vote dans cette. Cette incorporation de bien bacan et 100 mètres, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On continue par la parcelle Logier, bon, c'est peut-être pas la peine.
Donc les numéros, oui, juste oui. De rappeler les numéros 200 et 203, donc ils sont contigus à l'article précédent. Donc là, ils appartenaient en propre à M. Logier Albert, qui était né en octobre 1917 au Pontet, décédé à Marseille le 6 septembre 1989. M. Logier était donc propriétaire des biens immobiliers suivants sur la commune. Donc voilà, on considère l'ADC, pareil, pas de manifestation après les différents appels. Donc il y a eu publication, enfin on a fait toute la. Hein, on se retrouve avec les mêmes choses, l'arrêté de péril. Et donc il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions, les mêmes à 713, et de procéder à l'intégration des parcelles numéro 200 et 203 dans le domaine privé de la commune, et d'autoriser monsieur le maire, pareil, ou tout adjoint, faisant fonction à prendre les mesures nécessaires pour l'incorporation de ces biens.
Très bien. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Simplement, bon, ensuite, une fois que l'acquisition sera portée enregistrée, il nous appartiendra de débarrasser ces terrains, ne serait-ce que de les mettre en sécurité. Et là aussi, ça va engager des frais pour la commune, comme vous pouvez l'imaginer. Dans les acquisitions foncières, monsieur Petit,
oui, monsieur,
continuez de la manière la plus succincte et la plus efficace donc, que vous avez l'habitude de le faire.
Merci, monsieur le maire. Donc nous poursuivons nos achats donc, au quartier dit des Prés de la Manne. Donc nous avons un accord de principe de monsieur Michel Faravel, propriétaire de la parcelle cadastrée section F numéro 995, une surface cadastrale de 2320 mètres. Donc pour un montant, puisque nous avons pris pour habitude sur ce quartier de payer le mètre carré 5 euros, bien que l'avis des domaines nous porte cette valeur à 1,40 euros, donc de procéder à cette acquisition. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle subventionnée quartier Prés de la Maille au prix de 5 euros le mètre carré, soit 11 600 euros, d'autoriser monsieur le maire, tout adjoint faisant fonction, à signer l'acte de vente de toutes pièces afférentes à cette acquisition et de charger maître Anoux, notre notaire, à Bédouin, de la rédaction de l'acte.
Très bien. Des questions là-dessus?
Toujours pour les mêmes raisons, votre contrat, cet achat, on trouve un prix trop élevé.
Très bien. Donc, on considère combien de...
5.
Très bien. Merci. Vous votez contre, hein. C'est contre, oui. Donc, majorité pour le reste des... Hein. Deuxième achat.
Pardon. Donc, une parcelle contiguë à celle que nous venons d'acheter, ou à peu près, donc qui est beaucoup plus petite, qui appartient à M. Joël Rousseau, qui est la parcelle numéro F, numéro 991, de 230 mètres carrés. Donc qui a été, l'accord de M. Rousseau a été enregistré à la mairie en février 2016 pour un montant de 1150 euros. Donc je vous passe tous les vues, le code général, l'avis des domaines, la délibération. Et je vous demande d'approuver l'acquisition de la parcelle quartier Prés-la-Maille pour 1150 euros d'autoriser le monsieur le maire ou tout adjoint à signer l'acte chez maître Arnoux.
Très bien. Même maladie, même remède. Oui. D'accord. 50 fois. Ah, c'est nous qui avons le remède. Bonjour. Non. Si ce n'est pas le médecin qui te tue, ce sera la maladie qui t'apportera. Mais pour les chantiers jeunes, donc, pas de problème particulier. Chantier jeune, à part CME, demande de subvention, Pierre.
Oui, ben, comme toutes les opérations de réhabilitation, d'intervention sur les mâts réalisées par la part par un chantier jeune, il y a un financement de l'État, de la DDJS, du département. Alors, c'est la plupart de ces subventions sont demandées et soutenues, présentées par la part, sauf celles qui concernent le département, qui a toujours été, c'était le souhait du département, était demandé par la municipalité, demandé par la commune. Donc, sur cette opération, dont le coût total est évalué à 29 342, enfin, chiffré, parce que c'est plus qu'une évaluation, à 29 342,99. Il est prévu pour une participation des jeunes qui payent leur participation à cette opération, une subvention de 2500 euros de la direction régionale de la jeunesse et des sports, également 2500 euros de la DRAC, une subvention de la prise en compte sous forme de subvention des charges de personnel par la région, et une subvention de 7000 euros du conseil départemental de Vaucluse. Donc l'objet de cette délibération est de nous autoriser à faire la demande pour bénéficier de cette subvention. Sachant que par ailleurs, la commune participe elle directement sur ses fonds propres à ces chantiers à hauteur de 8502,99 €. Donc il demande au conseil municipal d'engager l'opération chantier bénévole en partenariat avec la part CME, de solliciter auprès du conseil départemental du Vaucluse, dans le cadre du FDIE 2016, une subvention de 7000 euros et d'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer toute pièce relative à cette délibération.
Très bien. Des questions là-dessus? Donc c'est la poursuite des réhabilitations de bergerie qui pourraient nous tenir pendant
une
longue décennie.
Le Jean du Temple, en fait, ça concerne essentiellement la récupération de l'eau à partir de la toiture vers la citerne, qui aujourd'hui n'est pas remplie parce qu'il manque un écoulement sur lequel ils doivent travailler. Mais c'était prévu dès le départ.
Très bien. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Toujours dans la recherche de subventions, on change de lieu, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle. Je vous, donc, comme vous le savez, donc, Citalis a obtenu une maîtrise d'ouvrage pour réaliser à la fois dans la maison de santé pluriprofessionnelle et l'EHPAD. Donc nous avons le budget qui a été établi, donc qui s'établissait à 423 000, auquel il convient d'ajouter des travaux de voirie, d'études et autres honoraires susceptibles d'être subventionnés, puisque tout l'intérêt de l'opération, c'est de grouper toutes nos dépenses de manière à pouvoir obtenir des aides lorsqu'elles existent et lorsqu'on a pu monter les documents qui sont nécessaires et exigés. Donc nous avons délibéré dernièrement sur la partition de la parcelle sur laquelle, donc appartenant à l'EHPAD, sur laquelle nous devrions construire la maison de santé pluriprofessionnelle. C'est la parcelle G1373. Et le plan de financement serait le suivant. Alors je vous informe, et vous le trouvez sur votre document, que nous avons, suite à une erreur de frappe, une erreur de plume, donc nous avons rééquilibré, on va dire, les recettes à 676 000 euros. Donc concernant les études prestataires intellectuelles et autres, donc nous avons 93 000 euros. Concernant les travaux de construction de la MSP et donc tout ce qui est voirie, réseau divers, nous en sommes à 583 000 euros. Nous avons donc une dépense prévue de 676 000 euros pour la réalisation de la mise en service de cet équipement. Nous demandons des subventions à plusieurs niveaux. Alors je vous parle de ce tableau une fois, puis ensuite je vous demanderai les autorisations de demander subventions pour des choses dont on m'a parlé ici. Donc pour l'État, nous demandons 30%, c'est-à-dire la DETR à 202 800. Le SIPL, donc, c'est un soutien à l'investissement public local. C'est une nouvelle mesure qui est mise en place cette année qui permet aux communes de bénéficier, enfin, du moins on le souhaite et en tout cas on s'y inscrit, de bénéficier d'aides pour soutenir l'investissement public local, puisqu'il faut le placer en corollaire des suppressions de dotations de l'État qui nous ont été signifiées et imposées. Je vous rappelle grosso modo qu'en 3 ans, nous avons moins de 110 000 euros qui nous sont octroyés par l'État. Alors, donc le SIPL, dont on reparlera tout à l'heure, pour 2016, on demande 100 000 euros. Au niveau du Conseil régional, ça c'est une subvention qui nous a déjà été confirmée, attribuée. Nous avons 181 800. Quant aux communes voisines qui ont été sollicitées et qui ont répondu favorablement, et là on ne fonctionne qu'avec ce qui a été réellement obtenu, confirmé par les uns et les autres par des délibérations, nous sommes à 36 000, ce qui fait que si nous obtenions cette DETR et ce SIPL 2016, cela constituerait un autofinancement pour la commune de 155 400 pour un total de recettes, bien entendu, comme ça a été resignifié sur votre document, de 676 000 euros. Donc ce que je vous propose, c'est de m'autoriser à solliciter auprès de monsieur le préfet et de Vaucluse, que nous avons reçu dernièrement, de la part de qui nous avons eu une écoute favorable, mais enfin, l'écoute favorable en termes administratifs, ça se traduit surtout pour nous par un écrit significatif d'attribution. Mais enfin, monsieur le préfet a bien enregistré la pertinence quant au territoire de la construction de cette MSEP. Donc je vous autorise à ce que je le sollicite pour la DETR et pour donc vous donner pouvoir de signer toute pièce relative pour obtenir cette subvention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et de la même manière, sans vous rappeler tout ce que je viens de vous dire, pour le SIPL. Alors ce SIPL, si, il faut quand même que je vous dise que c'est une dotation nationale qui existe pour 2016, mais dont on n'est pas certain qu'elle sera reconduite dans les années à venir. Quand je dis que l'on n'est pas certain, peut-être ça se fera, peut-être non. En attendant, au niveau de la commune, nous nous sommes positionnés sur plusieurs chantiers. Alors, bien entendu, celui-ci, hein, celui dont je viens de vous parler, qui est le numéro 2 dans la liasse que vous avez en main. De la même manière, nous, vous le savez, nous avons nous nous sommes inscrits de manière obligatoire dans la réalisation de l'ADAP. Hein, l'ADAP, donc, c'est l'accessibilité pour tous les bâtiments aux personnes souffrant de handicaps multiples. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Simplement, quand même, pour vous le dire, nous en sommes pratiquement au niveau de la commune à 1,4 million, 1,5 million qui ont été répertoriés par un cabinet indépendant. Ce chiffre ayant été soumis à la préfecture et devant être, ces travaux devant être réalisés sur un échéancier donc, de 6 ans. Ce qui nous fait grosso modo 2 à 300 000 euros qui sont d'ores et déjà placés dans nos budgets investissements pour les exercices à venir. Alors donc nous nous sommes positionnés en 2016 en ayant donné une priorité à ce qui nous semblait le plus urgent, c'est-à-dire tout ce qui touchait l'accueil du public, en particulier les enfants, les écoles, les crèches, la poste, donc tous les lieux où donc on a des urgences, restauration scolaire, la crèche, voilà. Et de la même manière, nous en avions parlé, vous savez qu'au sein de l'intercommunalité, la COV, donc il y a des dotations spécifiques pour les communes pour mettre en place des équipements collectifs. Pour ce qui concerne la commune de Bédouin, ce qui a été choisi, c'est la réalisation d'une salle multisport en lieu et place de la salle de l'Escandillade qui est route de Crillon. Donc,
vous connaissez, où on pratique notamment le judo, la danse, les autres gymnastiques, les limites, un peu, voilà. Beaucoup de choses dans un petit espace. Donc la COV s'est engagée compte tenu du fait que ce serait un équipement que nous partagerions avec les communes voisines de Plassans et Crillon, donc qui pourraient aussi, donc qui participent de par leur abandon de dotation à ce financement. Donc, c'est pour un montant prévisionnel de travaux de 500 000 euros. La COV en finançant 200 000, l'État 150 000 pour cette fameuse SIPL 2016, et la commune de Bédouin financerait à ce moment-là 150 000 euros. Alors donc pour ces trois chantiers, si vous voulez, pour ces trois investissements qui peuvent bénéficier, parce que là aussi il est une question d'éligibilité, ce qui nous sert et ce qui est important, c'est que ce sont des équipements collectifs, et on parle beaucoup de la mutualisation, mais la mutualisation, c'est très bien d'en parler, mais à un moment donné, il faut le vivre. Alors, il faut le vivre, il faut le prouver, et là aussi, tous ces travaux, notamment la MSP, la réhabilitation, l'extension de la salle des sports, donc ont reçu une écoute favorable de messieurs les préfets et sous-préfets, et c'est bien dans ce sens où il faut aller. Donc ce que je vous propose, c'est un subventionnement de 80 000 euros pour les travaux de mise en accessibilité pour l'année 2016. Et nous l'avons voté lors de la séance du budget dernière, ils sont à hauteur de 200 000 euros. Donc je vous propose de demander 100 000 euros aussi pour la construction de la maison de santé pluriprofessionnelle conformément au plan de financement que vous avez vu et que je vous ai développé tout à l'heure, et 150 000 euros pour la réhabilitation et l'extension de la salle des sports route de Crillon. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer toute pièce relative à ces différents projets.
Pierre, je veux simplement préciser que cette demande de subvention au SIPL ne peut porter que sur des opérations dont la réalisation, non pas totale, mais dont le début de la réalisation sera engagé courant 2016 et donc figure déjà au budget. C'est la condition sine qua non.
C'est juste. C'est juste. Merci de cette précision. Des questions ? Bien, je soumets à votre approbation. Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Monsieur Roulière, désherbage thermique.
Dans le cadre du plan Rhône, et plus particulièrement du volet qualité, ressources et biodiversité, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse accompagne les collectivités souhaitant s'engager dans une démarche zéro pesticide au titre de la lutte contre la pollution diffuse, et pour ce faire, apporte son soutien financier. Soucieuse de réduire, voire supprimer les pesticides, la commune de Bédouin envisage la mise en place d'un désherbage alternatif, parfois thermique, et sollicite une aide de l'Agence de l'eau afin d'élaborer le plan de désherbage et d'investir dans du matériel alternatif. Vu la proposition de la DAPEV Environnement pour la réalisation du plan de désherbage de la commune de Bédouin, d'un montant hors taxe de 3 100 euros, soit 3 720 euros TTC. Considérant que cette étude conditionnera l'investissement en matériel alternatif, pour lequel une demande de subvention sera également présentée. Considérant le taux de subvention pouvant aller jusqu'à 80% du montant de l'étude et du matériel. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à présenter auprès de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse une demande de subvention de 80% du montant hors taxe de l'étude, soit 2 480 euros. De donner délégation à M. le maire suite à cette étude et au plan de désherbage, a sollicité une aide auprès de l'Agence de l'eau pour le financement du matériel à hauteur de 80%. De donner pouvoir à M. le maire ou à tout adjoint faisant fonction de signer toute pièce afférente à ce dossier.
Très bien. Des questions particulières, donc vous voyez, on entre
volontairement et délibérément dans une pratique respectueuse de l'environnement et sans résidus.
Elle n'est pas obligatoire.
Et pas, si, on
peut, c'est une règle 18.
En fait, aujourd'hui, on a encore le droit d'utiliser des pesticides partiellement. Dans les cimetières, etc., on a encore le droit d'utiliser.
Parce que toutes les collectivités pardon, sont soumises au même régime,
oui.
Aujourd'hui.
Ouais. Oui.
Donc la date, c'est laquelle
c'est en vigueur déjà.
Non.
Pas encore. C'était pas au 1er janvier 2016, non.
Non, pour moi, c'est 2018 pour la totalité non-pesticides.
Oui, ça ne change rien.
Moi. Oui, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, donc comme
c'est pour ça que c'est en ce moment qu'il faut profiter de subventions. Parce que quand ce sera obligatoire, en tous les cas, il n'y aura plus de subventions.
Voilà, ce qui signifie donc qu'on sera effectivement, on pourra se prévaloir de zéro pesticide sous peu. Bien. Je soumets au vote des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. L'évacuation des déchets de balayage. Monsieur Rouillère, s'il vous plaît, on est dans le...
Conformément au statut de la COV portant compétence en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, et à ce titre en matière d'élimination et de valorisation des déchets ménagers, il est proposé une convention entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale afin de fixer les conditions générales d'évacuation des déchets issus de l'entretien de la voirie municipale et des marchés forains. Vu la délibération du Conseil de communauté du 8 février 2016 portant la tarification à 130 euros par tonne avec une franchise de gratuité pour les 5 premières tonnes annuelles et un abattement de 25% pour les tonnages suivants. Vu la convention cadre à intervenir, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention portant sur la gestion des déchets issus de la voirie et des marchés forains, ainsi que tout document subséquent.
C'est bien. Pas de commentaire particulier, là, on nous fait payer le service ramené. Mais des oppositions. Alors, le problème, c'est-à-dire on a plusieurs niveaux de. Là, on a là-dedans le balayage et on a l'évacuation des marchés forains.
Voilà. Et avant, c'était
payant de la même manière, on n'en avait pas de. Enfin, de la même manière, pas au même tarif, mais ça existait tout de même. Jean-Louis, tu peux nous dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? On nous faisait payer une mise à disposition d'une benne et de deux personnels de la COV, et nous fournissions pour le marché du lundi
nos services.
Ouais. On en mettait un ou deux.
Deux jours.
Voilà.
Mais par contre, le financier, ça a quelle incidence? Ça va nous coûter plus cher.
J'ai pas le tonnage des années précédentes.
Oui.
Ça va nous coûter plus cher. Mais là où c'est le plus contraignant, c'est sur la gestion des déchets de balayage. C'est pas tant sur les déchets de. Puisque les déchets du marché, de par les conventions qu'on passe avec les forains, quand on revisite les prix, on fait suivre une augmentation annuelle qui nous couvre normalement ces frais d'évacuation. Donc là, on a conclu la dernière fois une augmentation de 1% par an pendant 3 ans en faisant une application.
C'est qu'on va être au court.
Non, parce que déjà, on est pas mal haut.
Oui,
pas évident. Pour être linéaire, on est une des communes les plus élevées.
Ben, c'est un bon marché.
Pour l'info, c'est 1,70 le mètre linéaire. Sur le département, on est un des marchés les plus chers.
Ben, c'est un des marchés peut-être les plus intéressants pour les forêts aussi.
Je suis d'accord avec toi.
Donc ça va avec.
Ben, bien sûr.
L'important, c'est.
Et donc, on va payer l'enlèvement des déchets un peu plus cher, ça va aussi avec.
Voilà,
donc ça, tout correspond.
L'important, c'est pas de voir les masses bouger, c'est de voir le bénéfice qui reste.
Non, mais c'est ça. Non. De toute façon, si la convention, en fait, si vous avez signé, je
De toute façon, on a
moral.
On n'a pas le choix.
Non, je parle avec les forêts.
Voilà, mais c'est vrai que voilà, la COB, ben, le problème est le même ailleurs, hein, et le même ailleurs. On a beaucoup de réunions pour prendre en compte le coût réel de traitement des ordures ménagères, ce qui devient un luxe finalement. Ouais. Et donc toutes les pistes sont explorées pour valoriser au maximum toutes les prestations rendues et toutes les éliminations. En place, sachant aussi, là je vous livre une information que j'ai obtenue dans notre canal, étant à la commission intercommunale la CDCI de mise en place des intercommunalités et autres, c'est qu'il y a au niveau du département la volonté de réaliser un centre d'incinération départemental auquel nous allons très certainement être obligés d'adhérer, compte tenu qu'actuellement nos ordures nous sont traitées par prestation, hein, carrément par prestation à Bedaine, et donc il y a un schéma qui est en train de se mettre en place où compte tenu du fait que l'Oriol, qui est notre usine de traitement, ne fonctionne plus et reviendrait beaucoup plus cher, on va être obligé d'adhérer à un nouveau syndicat qui éliminera nos déchets. Maintenant, quel sera le coût réel de cette opération? Parce que là aussi, on aura du transport, enfin, on aura tout un tas d'autres choses, mais on est un peu dans des entonnoirs d'où on ne peut pas sortir. Et là, de la même manière, au petit niveau de la COB, eh bien, on nous demande de prendre en compte les coûts réels. Bien, des oppositions à cette convention. Pardon.
Que l'unité de traitement de l'Oriol.
L'unité de traitement, à mon avis, a du flot dans l'air, ne serait-ce que parce que sa remise, sans parler des problèmes de voisinage qui ont fait couler pas mal d'âmes et bouger, disons, pas mal de monde de manifestations et autres, on risque de se trouver avec un établissement qui ferait des traitements mais qui ne pourrait pas traiter les déchets ultimes en particulier.
Ça n'a pas été une très belle opération en fin de compte, puisque ça date, si je me souviens bien, de moins de 15 ans.
Oui, oui, c'est ça, oui, on était. Ça a été inauguré lors de
notre opération, effectivement, dans les années 2002-2003.
Ouais. Voilà. Vous avez fait voter, ça?
Oui.
Des oppositions à cette convention? Des abstentions? Je vous remercie. La subvention pour l'action culturelle. Michel, merci.
Alors, c'est une action culturelle de la bibliothèque. C'est la demande d'une subvention auprès du conseil départemental du Vaucluse. Monsieur le maire fait part à l'Assemblée qu'au titre de l'action culturelle, le conseil départemental est susceptible d'allouer une subvention à la commune pour une manifestation autour du livre et de la lecture, invitation au théâtre, organisée par la bibliothèque municipale qui devrait avoir lieu le samedi 26 novembre au centre culturel Hélène Adam. Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit. Vous avez donc les dépenses, achat de la représentation à 1 600, les droits d'auteur 150, communication 50 et frais de réception 150. L'autofinancement 1 350 et la subvention du conseil général 600. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'autoriser à monsieur le maire à solliciter l'intervention financière du conseil départemental de Vaucluse à hauteur de 600 euros au titre de son action culturelle pour l'organisation de la manifestation, de donner pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à la présente délibération.
Très bien. Des questions là-dessus? Non. On soumet à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. La convention entre la bibliothèque et l'EHPAD. Michel, tu veux ?
Alors, considérant que la bibliothèque municipale de Bédouin, service public, a pour mission l'accès à la lecture et à la culture de tous les administrés,
Elle a également pour objectif le portage de livres auprès de personnes empêchées. Il est ainsi proposé d'étendre les interventions de la bibliothèque au pôle d'activité et de soins adaptés, qu'on appelle PASA, de la maison de retraite Albert Artillon. La bibliothèque s'engagerait au dépôt d'une sélection d'ouvrages renouvelée tous les 2 mois à l'occasion de la tournée du portage des livres à domicile et à répondre aux besoins documentaires en lien avec les projets d'animation conduits par le PASA. Le PASA serait responsable des pertes et détériorations des livres mis en dépôt. Vu le projet de convention, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention entre l'élu délégué et l'EHPAD, représenté par sa directrice, et de tout document afférent.
Très bien. Voilà le PASA. Je vous rappelle que c'est la petite unité qui accueille dans ce qui était l'ancienne maison du directeur de l'EHPAD, des personnes qui sont donc en perte de repère, qui vivent néanmoins à l'EHPAD. Donc, mais qui ont une certaine autonomie, quoi, une petite cellule. Et donc, effectivement, on pourrait les faire bénéficier de ce portage de livres. Voilà. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. L'Office du tourisme, Madame Leclerc.
Oui, alors comme toutes les années, on est obligé de délibérer pour actualiser les tarifs des ouvrages et des produits proposés à la vente par l'Office de tourisme. Donc il y a des ouvrages dont les prix ne changent pas. Il y a un livre qui n'était pas en vente jusqu'à présent, qui est le livre des potiers à Bédouin, qui est mis en vente pour 15 euros. Et il y a 3 tarifs qui sont en légère augmentation, mais ce sont des augmentations par les éditeurs qui ne sont pas des augmentations de tarifs de l'Office de tourisme. Donc les cartes IGN, le Pays du Ventoux à pied et la carte IGN Balade en forêt au Ventoux qui ont une légère augmentation qui passe de 11,90 € à 12 euros pour le Mont Ventoux, carte IGN, de 14,50 € à 14,70 € par le Pays du Ventoux à pied. Et 9,10 € qui passe à 9,20 € pour Balade en forêt du Ventoux. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les nouveaux tarifs comme précisé ci-dessus.
Très bien. Et la carte Michelin à 4,95 €, on n'aurait pas pu la faire à 5.
Mais ce sont des tarifs imposés.
Des tarifs imposés. Cela étant, c'est la dernière année, donc Colette, a priori. Donc,
oui, a priori, c'est la dernière année qu'on va les... valider puisqu'on sera au tourisme intercommunal.
Voilà, donc ensuite, ce sera voté à la COM, mais c'est vrai qu'il faut bien être 63 pour valider le prix de la carte postale. Le tennis, c'est très attractif.
Il y aura peut-être beaucoup plus de choses à vendre.
Oui. Bien, des oppositions, des abstentions, je vous en remercie. Madame Roux, le pôle JE.
Alors, les vacances. Donc le club jeune de Bédouin propose durant les vacances de printemps 2016 un programme diversifié d'activités. Pour certaines de ces activités, la participation des familles est requise. Il s'agit du stage sportif qui se déroule du 4 au 8 avril 2016 et de la formation diplômante PSC1, donc ça sont les gestes de secours, les 11 et 12 avril 2016. Donc, il est proposé au conseil municipal de valider un financement selon les modalités suivantes. Pour le stage sportif, donc on a différencié les enfants qui résident à Bédouin des enfants qui viennent des communes extérieures. Donc, pour les familles qui ont le coefficient familial de 1, pour les enfants de Bédouin, il s'agit de 16 euros. Pour les autres enfants, 40 euros. Et pour les familles dont le coefficient familial est de 2, et le 2, les enfants de Bédouin participeront pour 24 euros et les enfants extérieurs pour 40 euros. Pour le stage de formation au geste de secours, pour les familles ayant un coefficient familial de 1, les enfants de Bédouin participent pour 22 euros et ceux de l'extérieur 55. Et les familles ayant un coefficient familial 2, pour les enfants de Bédouin, il s'agira de 33 euros et ceux de l'extérieur 55 euros. Donc, il demande au conseil municipal d'approuver le tarif et les modalités de financement des activités organisées pendant les vacances scolaires du printemps par le club jeune de Bédouin de dire que ces recettes seront encaissées par la régie de recettes enfance, jeunesse, éducation.
Très bien, donc comme vous le voyez, on pratique des tarifs différents en fonction de l'origine des jeunes, mais ce qui est assez logique, on veut bien recevoir, mais à un moment donné, il faut répercuter les coûts de fonctionnement, et encore, on ne travaille pas en coût réel. Il y a des questions là-dessus. Donc, je soumets au vote des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. La convention Habitat avec l'EPFR, bon, l'EPFR, vous le connaissez tous, c'est l'établissement public foncier régional qui peut se porter acquéreur en lieu et place des communes et qui peut les aider à mener les projets pratiquement jusqu'à l'attribution des chantiers. Qui peut même aller jusqu'à faire les appels d'offres. Donc le conseil de commune, le PFR, nous l'avions à une époque en conventionnement avec la commune, mais les choses ayant évolué, les conventions se passent maintenant au niveau des intercommunalités. Et ce que nous faisons actuellement sur le chantier des ferrailles, c'est bien une opération communale, mais ça vient du fait qu'elle a été induite il y a 5 ans. Donc une nouvelle convention permettant le portage financier et a été signée entre l'ACOV et l'établissement public foncier pour une durée de 5 ans qui fixe un objectif d'aide à la production de 300 logements sur le territoire, c'est-à-dire sur les 300 communes, sachant que l'engagement de l'EPF en prévisionnel pour ses acquisitions foncières se porte à 3 millions d'euros. Donc je vous propose d'adhérer à cette convention pour bénéficier des études et des interventions de l'établissement public foncier et donc de m'autoriser à signer cette convention. Des questions là-dessus ? Bien. Je le soumets au vote. Des abstentions ? 2. Qui représente 4, des oppositions. Je vous remercie. Okay. Pierre Collin, le Tipeee.
Alors, le Tipeee, ça n'a rien à voir avec les tentes du même nom. C'est beaucoup plus prosaïque. Le Tipeee, c'est les titres payables par Internet. Bon, le contexte important à savoir, c'est qu'il y a d'une part une volonté affiché à tous les niveaux d'utiliser les moyens de paiement modernes, et donc essentiellement les cartes et Internet, bien sûr. Il y a parallèlement une forte recommandation, pour ne pas dire une prescription, de la part de la DGFiP, c'est-à-dire la Direction générale des finances publiques, et particulièrement celle du Vaucluse, qui est un peu pilote dans ce domaine, pour inciter les communes à avoir de plus en plus les communes et bien sûr les utilisateurs des services offerts à la population, à avoir de plus en plus recours à ce type de paiement sur Internet plutôt que par des paiements en espèces. Telle enseigne, hein, comme on a déjà été informé, que la trésorerie de Montmarron n'accepte plus aucun paiement en espèces. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'imposer ou d'exiger de la part des personnes qui utilisent les services payants de la commune, de leur imposer ce type de paiement, mais de le leur recommander simplement. Il n'est pas question de l'imposer dans la mesure où tout le monde n'a pas forcément ni le matériel, ni la connaissance, ni la pratique du paiement sur Internet. Donc dans le cadre de cette modernisation des services affaires à la population, il est proposé de valider et de déployer ce dispositif adapté au recouvrement des créances à caractère régulier des riches. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, du pôle enfant-jeunesse, puisque sur le pôle enfant-jeunesse, la commune avait déjà mis, depuis le début de l'année 2015, en place le portail famille, qui est également un paiement sur Internet, qui est proposé, qui n'est pas imposé. Ce dispositif améliore l'efficacité du recouvrement par le comptable public, c'est certain. Je pense que c'est même une des motivations essentielles. Et ce système, on l'espère, doit permettre de réduire les paiements en espèces par certains usagers et les dépôts en numéraire par les gestionnaires des recettes. Donc demander au conseil municipal d'approuver le principe du paiement en ligne. Principe du paiement en ligne recommandé mais non pas exclusif, c'est-à-dire que les paiements par chèque notamment restent éventuellement en espèces, restent possibles. Approuver le principe des paiements en ligne des titres de recettes au moyen de ce dispositif Tipeee, aussi bien pour le budget principal que les budgets annexes, d'autoriser Monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer l'édite convention qui régit les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service Tipeee et de l'ensemble des documents nécessaires à son application. Déléguer à Monsieur le maire le soin de déterminer précisément les régies concernées. Ceci prenant en compte notamment les sommes plus importantes. Plus les sommes sont importantes, plus ça peut, le paiement par Tipeee peut se justifier ou même s'imposer. Quand il s'agit de petites sommes, c'est beaucoup plus délicat. Voilà.
Très bien. Enfin, avant de vous faire voter, je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que la perception ne recevant-il de numéraire. Donc ça nous oblige, nous, les communes, pas que la commune de Béguin, bien entendu, mais enfin, au moins pour le département du Vaucluse, qui est un département pilote, ça nous oblige à pourvoir d'un dispositif de retrait de fonds par camion blindé, que nous allons payer, bien entendu. Dans notre malchance, on va dire que nous avons la chance de pouvoir coordonner ces collectes avec l'établissement postal de Bédouin. Mais néanmoins, chacune de ces interventions sera payante, faute de quoi il nous faut apporter nos fonds à une date donnée, pratiquement une heure précise chaque semaine, à la poste centrale de Carpentras. Alors vous voyez la pratique de l'affaire, quoi, sans parler des risques encourus par des agents pour aller, on va dire, pour quelques poignées de billets. Quoi.
C'est un bel exemple
le service public,
du souci de l'État, des services de l'État de se décharger d'un certain nombre de contraintes et d'alléger leurs coûts en s'en déchargeant sur les communes.
Et ça ira pas ensemble.
Bien, donc le Tipeee, y a-t-il des oppositions au Tipeee? Des abstentions? Je vous remercie. Bien, la convention de servitude avec Orange pour le passage de la fibre optique aux Airbus. Donc, pour vous le faire en résumé, donc nous recevons cette année par exemple le Tour de France, dont le gros de la caravane et des moyens de retransmission vont s'installer sur la zone au col des Tempêtes qui a été désertée et réhabilitée, je le mets en guillemets, par l'armée. Pour ce faire, il y a nécessité de liaison par fibre optique avec le sommet du Ventoux, où se trouveront notamment tous les chronométrages, tous les appareils de mesure et autres. La dernière fois où le Tour de France s'était passé, on avait eu une installation tout à fait sauvage au milieu du Pierrier, sans aucune autorisation de la commune, alors que vous le savez, on se trouve dans des zones protégées du Natura 2000, etc., etc. Donc, après nos protestations véhémentes, donc cette fois-ci, il y a eu une anticipation d'Orange qui nécessite... qui souhaite de la même manière mettre en place une fibre optique dans une gaine. Donc ce serait une mise en place permanente, hein, on va dire, la gaine serait enfouie. De toute façon, si elle doit y être, on met en mot que l'on passe les choses proprement. Et par rapport au passage donc, de cette fibre optique, et dans le respect bien sûr, De contraintes d'empouissement qui seront déterminées par l'Office national de la forêt, notre prestataire, la Direction départementale des territoires, le SMAEV, pour tout ce qui est protection environnementale. Je vous propose de les y autoriser, mais puisque la loi nous l'autorise aussi, pourquoi ne pas demander une participation? Celle-ci est établie de façon réglementaire à 3,05 € par mètre linéaire, donc il y aurait 400 mètres d'empouillissement, plus 150 € d'une somme forfaitaire. Je vous laisse, donc ça nous ferait 1 370 €. Voilà, une redevance qui serait versée annuellement et qui nous éviterait à l'avenir lors de chaque passage d'événement, mais finalement, que l'on souhaite quand même assez fréquent. On préfère, je dis carrément qu'on préfère avoir le Tour de France plutôt que de le voir passer ailleurs. Et ça nous permettrait donc de respecter un peu plus cet environnement en termes de fonctionnement définitif. Donc je vous propose d'approuver la convention de servitude qui nous est proposée et de m'autoriser à signer cette convention. Voilà. Des questions là-dessus ? Monsieur de la fibre optique. Je le soumets aux voix, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Bien, passons maintenant aux modifications du tableau, des tableaux des effectifs. Donc, il vous a été remis, comme nous le faisons chaque fois d'ailleurs, le tableau des effectifs dont il devrait être. Alors donc, vu les différentes dispositions, Code général des collectivités, vu la loi du 13 juillet 83, celle du 26 janvier 84, vu le budget qui nous a permis d'ailleurs d'adopter le financement de ces postes, vu les dispositions statutaires applicables aux différents agents de la commune en termes d'évolution de carrière, puisqu'on parlera aussi de prise de grade, vu l'avis de la commission administrative paritaire, pour certains qui en relèvent, considérant les différents besoins du service administratif et du pôle enfance, jeunesse, éducation, je vous demande d'accepter la création des postes budgétaires suivants. Un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet, il s'agit là d'un avancement de grade. Donc ce poste sera bien sûr, mais pas tout de suite, puisqu'on a besoin d'une commission paritaire, de déclarer la vacance de poste au centre de gestion. Donc ça fera l'objet du prochain conseil municipal. Le poste va disparaître une fois que l'agent aura pris son grade. Voilà. Un poste, je vous demande de créer aussi un poste d'auxiliaire de puériculture territoriale de première classe à temps complet. Là, je crois qu'il faut s'en réjouir puisque c'est la réussite à un concours de Marie-Françoise Emmanueli. Donc, qui automatiquement, c'est normal, c'est la démarche qui est la nôtre. Donc, de toujours promouvoir ceux qui ont réussi les concours. Enfin, sachant, entre parenthèses, que Marie-Françoise fait partie des personnels qui, au 1er janvier, seront sur les registres de l'intercommunalité. Donc, je vous propose ensuite de créer un troisième poste, qui est un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet. Donc, il s'agirait là d'un recrutement d'un responsable du pôle enfance jeunesse, sachant toujours que dans le cadre des transferts qui vont avoir lieu, la responsable actuelle du pôle enfance jeunesse, qui est aussi la responsable de la crèche, sera reversée sur la COV, donc sachant qu'elle occupe 80% de son temps sur ce poste de directrice de crèche. Donc ça, ce sont les trois créations. Et de la même manière, par rapport à des départs en retraite, qui sont ceux de Mme Sautré et de M. Favier, bon, on peut les nommer, ce n'est pas mes dires vis-à-vis d'eux, je vous propose de supprimer le poste d'adjoint technique territorial de deuxième classe à temps complet de Mme Sautré et le poste d'adjoint technique territorial de première classe à temps complet de M. Favier. Je vous propose donc d'approuver la nouvelle charge théorique telle qu'elle vous est soumise. Voilà, donc telle qu'il est annexé. Donc on a beaucoup de mutations. Ça concerne tous les postes permanents. Y a-t-il des questions là-dessus ? Oui, je vous écoute.
Donc, si j'ai bien compris, il va y avoir la création d'un poste.
Oui.
Qui ne sera pas détaché avec il ne sera pas détaché à la COV dans le futur ce poste.
Non,
il sera notre charge.
La COV prend en charge la petite enfance, mais ne prend pas en compte l'enfance, la jeunesse. Tout ce qui est jeunesse. Donc actuellement, nous avons une directrice qui occupe 80% de son temps sur le poste de direction. Et ceci dit, nous avons parallèlement un autre agent qui intervient au niveau de la crèche pour 20%, notamment pour la préparation des repas entretiens. Donc, je peux vous le dire, c'est Hélène Rodriguez, c'est pas désobligeant non plus vis-à-vis d'elle. Donc, c'est le poste. Donc, en fait, indépendamment des indices de rémunération, on a une personne à temps complet qui va partir à la COV. Voilà, donc ça c'est clair. Et donc, nous avons par contre le fait qu'elle parte fait que nous n'avons plus de direction au Pôle Enfance Jeunesse. Donc, c'est ce poste-là, effectivement, que nous créons.
Donc, on en voit quelque
chose. C'est une création, voilà, d'un poste. Okay.
On aura la charge d'une personne en plus.
On aura la charge d'une personne en plus. Mais
une qui part.
Mais,
une qui part et une autre qui
pendant qui
viendra.
Ouais.
Ouais.
Non, on aura une charge en plus.
Oui, on aura une charge en plus. Tout à fait. Hein. Oui, mais
on le veuille ou non, on aura une charge en plus.
Et oui. Je ne sais pas faire
autrement. Parce que la COV ne prend pas tout.
Voilà. Et oui. Ah ben non. Si la COV avait pris tout le service en pense jeunesse, effectivement, on n'avait pas ce problème-là. Mais
ça, c'est une des conséquences du départ du pôle en pense jeunesse à la
petite
enfant.
Petite enfant.
Oui.
C'est que la crèche qui s'en va.
Oui, mais bon, indirectement. Stéphanie supervisait le toit et la petite enfance. Ceci dit, on avait d'autres projets aussi de réajustement parce qu'on était quand même en tension là-dessus, puisqu'on était parti à des moments donnés.
Mais en sachant qu'on allait un jour être rattaché, enfin que la crèche allait partir à la COV. On n'aurait pas pu l'anticiper, d'un point de vue emploi.
Comment ?
Mais pour pas que ça nous coûte de l'argent. C'était pas possible, quelque part.
Oui, mais comment ?
Ah, ben, je ne sais pas.
Il nous reste une direction où on met personne pour l'enfance-jeunesse, et il se débrouille tout seul.
On peut aussi faire ça.
Voilà, et tout le monde se débrouille, la cantine, les animateurs, tout le monde se débrouille tout seul.
Oh, mais il y en a qui se débrouillent seuls.
On peut le voir comme ça, ou effectivement, sachant qu'on aurait pu aussi faire le choix, ou de l'autre côté, je ne sais pas, enfin, ça n'a pas été proposé, de garder notre directrice de crèche pour faire la directrice du pôle JE, et faire partir quelqu'un d'autre, faire partir la cantinière, enfin voilà, après c'est une question de. Sachant que la COV est intéressée, vu le grade de la directrice de la crèche, puisqu'elle est elle-même sage-femme, et ça les intéresse d'avoir une sage-femme dans leur effectif, voilà, c'est elle qui s'en va. Après si les gens sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de direction, pour économiser un poste.
C'est une question.
Non, mais voilà, après, c'est une question de bon sens. Il me semble que si quelqu'un part à une direction, ça veut dire que, sachant qu'on a décidé aussi, puisque vous l'avez voté, au vu des besoins de la commune, de mettre en place un CCAS un peu plus étoffé pour que les gens puissent être reçus à la mairie dans des conditions dignes d'une réception un peu, pas au milieu de l'entrée, même si les choses sont quand même faites, mais bon, dans un endroit un peu confidentiel pour exposer ces situations, cette personne prendra aussi le développement de ce secteur-là et l'assurera.
Et sachant aussi qu'en masse salariale, du fait d'un réajustement de personnel du pôle enfance jeunesse, donc on ne renouvelle pas certains contrats, en masse salariale, on n'aura pas à supporter la totalité du différentiel de ce poste à temps complet. C'est tout un jeu de glissement et d'adaptation aux besoins. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'une personne qui ait la qualification d'animation. Le profil de ce poste, d'ailleurs, c'est celui qu'on a fait paraître au centre de gestion. Il cumule effectivement les deux compétences. La compétence gestion des personnels, animation, petite enfance, et la partie, tout ce que dont tu parlais, pour la gestion du CCA, ce centre communal d'action sociale. Donc voilà ce que je vous propose. Et donc, comme je vous le disais, les deux postes, le premier poste donc, qui concerne Myriam Gravier, donc, qui progresse dans son échelon et de Marie Emmanuelli seront supprimées quand elles auront été nommées dans le nouveau rang. Je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Dans les emplois non permanents, qui ont vu les différents codes des collectivités territoriales, les lois du 13 juillet 83, du 26 janvier 84, vu le budget principal de la commune, le budget annexe camping, piscine, tennis pour l'exercice 2016, là on entre dans, on revient comme on le fait toutes les années sur le fait d'équiper nos services pour la saison. Alors dans un premier temps, je vous propose de créer un poste d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet pour le service police municipale afin d'y exercer les missions de placier et d'ASVP. C'est le remplacement d'un personnel donc, qui était en contrat temporaire à qui nous avions proposé de faire une prolongation de 6 mois et qui n'a pas souhaité donner suite. Je vous propose de créer un poste d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet pour le service technique équipe des espaces verts. Donc c'est un poste mais qui est occupé actuellement par un personnel non permanent mais qui va partir à la retraite, pour laquelle d'ailleurs jusqu'à ce matin il n'avait pas encore reçu le dossier, la date et tout ce qui était exact. Et ensuite, donc conformément au dispositif des contrats aidés, puisqu'on peut bénéficier aussi à des moments donnés en fonction du public qui nous sollicite de certaines aides, contrats d'aide à l'embauche, je vous propose donc de créer un poste d'assistant administratif pour le service urbanisme et technique. La phase de création en particulier, c'est de la même manière le renouvellement d'un contrat aidé à qui nous avions proposé une prolongation de service pendant 6 mois qui n'a pas souhaité le faire. Donc, à pourvoir par contre un poste d'adjoint technique polyvalent pour le service technique renfort festivité, c'est un CAE de 6 mois minimum, donc à temps complet. Ça, c'est le poste que nous prenons toutes les années pour l'été. Un poste d'adjoint technique polyvalent pour la police municipale, renfort festivité, un nouveau CAE aussi. Ça, c'est un personnel que l'on se propose d'affecter à l'organisation et au suivi de toutes ces manifestations, courses de vélo, fêtes, mise en place de barrières, etc., etc., pendant la période estivale. Un poste d'adjoint administratif, un poste d'adjoint technique, pardon, pour le service camping-piscine, CAE de 6 mois, temps non complet, 26 heures hebdomadaires. Ça, c'est un classique qu'on avait toutes les années. Et un poste d'agent d'entretien pour le service. C'était le poste que l'on appelait le poste du veilleur de nuit. Hein, c'est ça, du gardien de nuit. Et un poste d'agent d'entretien pour le service camping-piscine. Donc CAE 6 mois, à temps non complet, 26 heures hebdomadaires. Là, Colette, tu en parlerais certainement mieux que moi, mais concernant ce poste de gardiennage, donc compte tenu de tout ce que, enfin, des aménagements qui ont été faits, notamment construction de murs, renforcement du grillage, etc., etc., je pense qu'on va se dispenser de cette présence qui, disons, dont il était difficile de valider l'efficacité.
Alors on l'a conservé, mais on ne va peut-être pas le prendre.
Oui, voilà. Très bien.
Par contre, on votera certainement au prochain conseil tous les agents non permanents que l'on recrute l'été pour l'ouverture de la piscine. Au prochain conseil.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bien. Je le soumets au vote. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Vous avez une liste des décisions du maire qui ont été prises pendant le premier trimestre. Comme vous le voyez, ce sont essentiellement des décisions d'urbanisme de non-préemption pour toutes les ventes qui nous sont signalées par les officiers ministériels, par les notaires. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Bon, mais les modification des régies de recettes, équipements municipaux de la Pinède,
c'est sûr, ça on a vu. Fixation des tarifs de l'occupation du domaine public pour les stationnements de taxi. Un enrochement, donc camping municipal. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui n'est pas non-préemption. Voilà, c'est à titre informatif. Bien, mais pas de. Est-ce qu'il y a des questions, des problèmes en particulier?
Pardon?
Le prochain municipal?
Non, on a été enregistré.
On a été enregistré, ah ben oui, mais ça je pense que chacun l'a vu, oui.
On a fait un sou.
Ouais. Réglementairement.
Ça aurait été bien de le dire avant le conseil.
Je pensais que c'était pour faire les quatre.
Ça aurait changé ce que tu as dit.
Ça va, oui. Voilà. Donc on va voir ce que donne cette technique. Mais il faut quand même l'expérimenter avant de. Et au cas où.
Pardon, la technique sera.
Si la technique est défaillante,
mais non, si, positive, si elle est défaillante.
Oui, si elle est positive, eh bien les délibérations seront accessibles sur le site de la commune. C'est notre projet. Voilà. Et bien plus soit dit, plus soit clair. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.